Bonjour et bienvenue à tous pour ce 7e numéro d'En Spectateur. Programme riche aujourd'hui puisque nous vous emmenons d'abord à l'Opéra de Lyon pour vous présenter l'opéra de Verdi, Macbeth, mis en scène par Ivo Van Hove. C'est au théâtre de Vénissieux que nous rendons ensuite pour vous faire la critique du spectacle La Liberté pour quoi faire ou La Proclamation aux imbéciles. Tout un programme. Et un programme de Bernanos qui puisait, puisque ce sont des textes de l'auteur du journal d'un curé de campagne que Jacques Allaire mettait en scène et présentait le vendredi 12 octobre au théâtre de Vénissieux. L'occasion donc de se rendre dans ce lieu que vous verrez très attachant. Le lendemain, c'était le samedi 13 octobre, si vous suivez bien, et dans le cadre du off du festival Lumière, triomphait, je crois que le terme est approprié, La Branche Bâtarde qui adaptait Mystère Bouffe de Dario Fo, nous y étions, vous découvrirez nos critiques. Enfin, place à un beau projet, aux ateliers poétiques d'Ancène, animés tous les mardis soirs de 20h à 22h par Lambert, qui est là pour nous en parler. Bonjour Lambert.
Bonjour Thomas.
Alors nos auditeurs te connaissent, tu as également vu pour nous La Liberté pour quoi faire, nous écouterons ta critique tout à l'heure. Alors lui aussi a vu La Liberté pour quoi faire, il a vu également Mystère Bouffe, vous les auditeurs vous le connaissez aussi très bien, vous savez qu'avec lui pas de langue de bois, lui c'est Florent.
Bonjour.
Alors je crois qu'avant de continuer, tu voulais revenir sur une certaine polémique.
Nous avons essuyé des métacritiques fournies après notre émission sur Don Juan dans Spectateur numéro 4, qui a déchaîné les passions des foules. Cette émission a pour but de donner un avis de spectateur, avis plus ou moins étayé par des fondements théoriques, mais qui reste un parti pris assumé comme celui du metteur en scène. Taxer notre perplexité d'ignorance, c'est sombrer dans le mépris, mépris des critiques et des spectateurs. À titre plus personnel, je voudrais rassurer, le vocabulaire scatologique n'est pas le seul que je maîtrise. Ainsi, pour revivifier la polémique tout en concluant sur Don Juan, je voulais citer un extrait de L'Espace Vide de Peter Brooks à propos du théâtre mortel. Le pire, c'est qu'il y a toujours un spectateur qui éprouve du plaisir devant un spectacle aussi lugubre. Au fond de lui-même, il souhaite sincèrement un théâtre plus noble que la vie, et il confond une sorte de satisfaction intellectuelle avec l'expérience vraie à laquelle il aspire. Mais en conférant ses lettres de noblesse à l'ennui, il ne fait que le perpétuer.
Autour de la table, on termine par une voix que vous n'avez pas encore eu la chance d'entendre, la jolie et douce voix de Caroline, experte S-Lang, très bonne amie, qui viendra de temps en temps quand Dame Agrégation lui permettra au micro d'un spectateur. Bonjour Caro.
Salut.
Alors on est au complet, mais avant de vous emmener à l'opéra, je voudrais moi aussi reprendre quelques points, un peu comme Florent. Réponse ou mea culpa, chacun jugera. Suite à la micro-polémique déclenchée par nos critiques du triptyque autour de Don Juan, mis en scène lors des Cités Muses. Alors tout d'abord, je présente au nom de l'équipe nos excuses. Si certains mots, si certaines images ou certaines expressions ont pu blesser, certes, nous n'avons pas apprécié le triptyque. Nous avons tenté de montrer pourquoi, à notre sens, il s'agissait d'un beau projet, mais d'un projet raté. Mais nous respectons le travail qui a été fourni pendant plusieurs années par une troupe en grande partie amateur. Ensuite, je tenais à dire que nos critiques de Don Juan ne sont pas représentatives de la marche de l'émission. Vous qui la suivez depuis 7 numéros maintenant, vous le savez, puisque problème d'organisation et de couverture d'un festival forcément étalé dans le temps, les auditeurs n'ont pu entendre qu'une seule critique, qu'un seul avis pour la deuxième et la troisième partie du triptyque, alors que d'habitude, nous multiplions les points de vue. Enfin, dans cette émission, et Florent le rappelait, nous n'avons ni l'expertise ni la prétention d'être des critiques professionnelles. Mais nous vous donnons en toute franchise, sans concession et en prenant le recul nécessaire, notre avis, argumenté et construit sur les pièces que nous allons voir pour vous. Notre avis n'est certes pas des plus éclairés, mais il n'est pas pour autant sot, sombre et obscur. Bref, une émission qui est faite par des spectateurs, pour des spectateurs, pas plus, mais pas moins. Ce n'est ni le masque ou la plume ou les colonnes de Télérama, ni le café du commerce. Je ne vous emmène ni à la rédaction de Télérama maintenant, ni dans le café du commerce, mais à l'Opéra de Lyon, après avoir pris le soin de refermer cette parenthèse. Poussons maintenant la porte de l'Opéra de Lyon, où jusqu'au 27 octobre est donné le Macbeth de Verdi, mis en scène par Ivo Van Hove. Alors je ne vous ferai pas l'affront d'un pitch de Macbeth, il me semble que la pièce du théâtre de Shakespeare est suffisamment connue, d'aucuns ont peut-être également lu le Macbeth de Ionesco qui lui ont fait un bon pendant. En tous les cas, l'adaptation faite en 1865 par Verdi de cette pièce en un opéra en quatre actes, en italien, sur un livret de Francesco Maria Piave, est assez fidèle à l'histoire originelle. Autre évidence, le fait qu'Ivo van Hove signe une adaptation de Macbeth. En effet, son théâtre s'inscrit dans le mal-être, c'est-à-dire, je le cite, « l'impossibilité d'être qui s'exprime dans une impossibilité d'amour à la mesure du désir d'amour total ». Une réalité douloureuse qu'il exprime dans le choc des corps sur scène, mettant en regard les incohérences de la société et la force démentielle et occulte des pouvoirs, ceux de la finance et de la technologie surtout. Sa dénonciation de l'abus de pouvoir lui a fait montrer, bien avant la crise actuelle, les déviations d'un monde qui se cache à lui-même la vérité. Le pouvoir en arrive à refuser, dans sa course folle, les raisonnements. Il se contente d'activer les plus atroces manipulations, autoproduites par les calculs froids des ordinateurs préformatés. L'engrenage se met alors à enserrer et écraser les individus, quelle que soit leur force. Et Macbeth, dans tout ça, me direz-vous, eh bien, Macbeth y passe aussi. Dans la mise en scène de Ivo van Hove, les grands châteaux deviennent alors les hautes tours des mégalopoles de la finance. Les prédictions des sorcières se muent en discours formatés des professionnels de la communication. Les seuls à rester humains sont ceux qui décident de vivre en marge de ce fléau et de le contester. C'est les indignés, ceux du mouvement Occupy Wall Street, qui ont servi de détonateur d'ailleurs à Ivo van Hove pour cette mise en scène, et qui campent dans leur tente au pied des tours. Ce sont eux qui incarnent la forêt de Birnam, dont l'avancée marquera la fin du règne de Macbeth. Une mise en scène audacieuse et moderne donc, à découvrir mercredi 17 octobre à 20h, oui, c'est-à-dire ce soir, vendredi 19 à 20h, dimanche 21 à 16h, mardi 23 à 20h, jeudi 25 à 20h et samedi 27 octobre pour la dernière à 20h. Vous avez toutes les dates qui vous restent pour aller voir cet opéra. Nous y allons également pour vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour entendre nos critiques. Je vous emmène maintenant au théâtre de Vénissieux. Très beau lieu à la programmation éclectique que je vous encourage à feuilleter sur internet parce que vous y trouverez forcément votre bonheur à un moment de l'année, entre du théâtre classique, comme une mise en scène de Lorenzaccio ou des fans savantes, ou du théâtre plus contemporain comme La Liberté pour quoi faire ou La Proclamation aux imbéciles que nous sommes allés voir pour vous et dont nous allons vous parler tout de suite, de la danse également ou des concerts comme Émilie Loiseau le 16 novembre. Bref, une riche et belle programmation, mais surtout un lieu très accueillant. Alors je dois avouer que j'ai une tendresse particulière pour ces théâtres de banlieue à l'architecture communiste. Oui, le théâtre de Vénissieux s'appelle également la Maison du Peuple, c'est pas un hasard. Ces théâtres dont l'esprit est d'amener et de diffuser la culture et l'art, l'évasion, la beauté et le divertissement, loin des centres-villes où ils sont d'habitude confinés, dans des quartiers dits populaires. Alors en Seine-et-Marne, d'où je viens, il y a la scène nationale de Sénart, dont Marie Fernandez, que vous avez entendu le papier il y a une semaine, aura peut-être l'occasion de vous parler lors de ses chroniques qu'elle assure dans cette émission. En région parisienne, il y a le théâtre des Gémeaux, entre autres, et en région lyonnaise, on a donc, et je vous incite à y aller, le théâtre de Vénissieux. Alors vous y trouverez un accueil chaleureux, je vous le promets, dans un lieu convivial. Le soir, une heure avant le début de chaque spectacle, le bar est ouvert et il vous propose boissons et restauration. Avant le spectacle. Dans le hall, à la disposition du public, vous trouverez des informations sur les spectacles passés, présents et à venir, et des journaux ainsi que des revues. Le théâtre de Vénissieux, c'est donc pas qu'un lieu de passage où on enchaîne les spectacles. C'est un lieu de vie, un lieu où la culture vit et où il fait bon rester un temps et s'arrêter. Cela vaut donc la peine de remonter la ligne D jusqu'à son terminus, puis de marcher dans des quartiers pavillonnaires en suivant un trajet plutôt bien indiqué, pour se rendre au théâtre de Vénissieux, où il n'y a pas que l'accueil qui est au rendez-vous, la qualité des spectacles également. C'est en tous les cas ce que l'on peut conclure après La Liberté pour quoi faire ou La Proclamation aux imbéciles, mis en scène par Jacques Allaire. D'après les textes, La Liberté pour quoi faire et La France contre les robots de Georges Bernanos. Donc une composition poétique et politique, un théâtre fait d'éclat, de représentations fantasques traversées de danse, de musique, de l'univers du cirque, pour adapter deux textes qui sont un cri, un combat contre les humiliations des puissants, contre une rentabilité érigée en système qui met en péril l'homme et sa pensée. Un cri d'alarme qui nous rappelle, avec une actualité frappante, qui nous fait aussi nous interroger sur l'auteur. Est-ce vraiment Bernanos qui a écrit ? On a l'impression que c'est plutôt un de nos contemporains qui a écrit en 2010. Non, c'est bien lui qui pousse un cri d'alarme. On risque effectivement, selon lui, sans cesse d'abandonner au profit d'une prétendue sécurité nos libertés les plus fondamentales. Alors sur scène, c'est un peu le destin de l'homme cauchemardé, à moins que tout cela ne soit qu'une horreur éveillée, une triste prémonition. Un texte fort donc, mais qui n'était pas destiné au théâtre à l'origine. Alors comment nos critiques du jour, Florent et Lambert, ont trouvé l'adaptation de Jacques Allaire de ce texte intéressant mais aussi exigeant? Alors je me tourne vers toi, Florent, qu'en as-tu pensé?
Il y avait de quoi frémir légèrement à la vue du titre de cette pièce pour un amateur de légèreté comme moi. La perspective d'une œuvre qui se définissait comme engagée au théâtre de Vénissieux, appelé également Maison du Peuple, réveilla en moi l'anticommuniste primaire qui somnolait, tirant de son sommeil dogmatique l'amateur d'ordre bourgeois qui ronflait douillettement installé dans les moelleux clapotements des premiers feux rougissants de l'automne. De surcroît, ah, cruelle destinée, il me fallait pour y assister affronter les rigueurs des quartiers périphériques et leur lot de marches à pied dans de sombres ruelles pour déboucher finalement, suprême horreur, au milieu d'un théâtre qui avait le toupet de faire sale comble en invitant, tenez-vous bien, des lycéens d'un quartier populaire devant une pièce prônant la rébellion contre l'ordre établi. Oh, pauvre France, aurais-je assez de larmes pour pleurer sur tes plaies? Mais foin de préjugés, me dis-je, saisissant mon courage à deux mains, ainsi que ma canne à pommeau d'argent que lorgnait un jeune de type populacier. Et ni une ni deux, je posais mon séant sur le siège heureusement prévu à cet effet. Et je fis bien. La mise en scène évite presque tous les écueils que comporte l'adaptation au théâtre d'un pamphlet politique. D'autant que les textes de Bernanos manient un certain nombre de concepts qui pourraient assez vite lasser sur scène, référence à Spinoza, à Kant, à Marx, j'en passe, et des meilleurs. Les deux acteurs réussissent à varier le ton et les costumes, ici ouvriers perdus à fond de mine cherchant en vain à mettre les spectateurs en garde, là messieurs loyaux vantant les bienfaits de la sécurité que nous offre la société capitaliste. Le travail nous nourrit, les assurances nous protègent, les médias nous pensent. En plus d'être intelligemment joué, le texte est agréablement mis en scène. De belles images secondent et parfois sauvent le propos de l'enlisement qui le guette en tapinois. Ainsi, ces deux bourgeois en frac et chapeau claque, à moins que ce ne soit des queues de pied et de haute forme, qui tiennent le devant de la scène. Ou encore le tableau final, où deux écoliers, au milieu des pupitres, se transforment en soldats, sous le drapeau bienveillant de la République. Pour finir sur un cliché de critique de théâtre, c'est une ambiance, texte et image, très 4e République, qui garde, pourtant, une surprenante actualité. On s'ennuie peu devant ce spectacle presque agitprop, ce qui est une grande réussite, et en plus, on se réjouit, de ce que Bernanos, ce joyeux camelot conservateur, se retourne dans sa tombe quand son texte devient presque libertaire. En somme, en dépit des risques inhérents, au contact prolongé avec l'air d'outre périphérique, ça valait le coup de voir ça.
Merci Florent. Alors tu viens d'entendre Florent, est-ce que tu es plutôt d'accord avec lui, Lambert?
Déjà, il m'a bien fait marrer.
Ça, je crois qu'on est d'accord là-dessus.
Ensuite, je vais d'abord te remercier de m'inviter pour cette chronique parce qu'il y a vraiment longtemps que j'avais envie de voir ce spectacle La liberté pour quoi faire ou La proclamation des imbéciles aux imbéciles de Jacques Allaire qui, après avoir mis en scène des textes de Karl Marx, après avoir travaillé avec des élèves du conservatoire de Montpellier sur le futuriste et communiste Vladimir Mayakovsky, s'attaque à Georges Bernanos. Donc il y a longtemps que je voulais voir ce spectacle. Par sa nature, il soulève en moi des questions qui me passionnent. Je pourrais donc disserter une heure entière, voire deux ou trois sur ce spectacle. Mais
là, c'est trop long.
Mon but n'étant pas d'assommer nos auditeurs, je vais essayer d'être concis en me concentrant beaucoup sur les éléments qui m'ont plutôt dérangé.
D'accord.
Tout d'abord parce que ça ira plus vite.
Oui.
Ensuite, parce que j'ai du mal à faire autrement et que, comme le dit si bien le vieil adage, qui aime bien châtie bien. La liberté pour quoi faire ou la proclamation aux imbéciles, je vais y arriver, est un objet étrange, le fruit d'une rencontre chaotique entre différents éléments. Une scène encombrée de chaises abîmées, un mât de cocagne, une passerelle qui plonge dans le public, des lapins automates inquiétants et fascinants, des clowns, des écorchés, des soldats, des lampes torches, des musiques de cirque ou de films d'épouvante, et des extraits de textes. Ceux de Georges Bernanos, critiquant une société moderne dans laquelle les individus abdiquent leur liberté au profit de la machine et du commerce. La critique n'est pas nouvelle. D'ailleurs, ces textes sont de 1947. Le début du spectacle, donc, m'a un peu dérangé, au sens négatif du terme. Les deux comédiens, depuis l'obscurité du plateau, braquent chacun sur nous une lampe torche. Ils nous expliquent que nous, qui les écoutons, avons peur de la liberté. Sans qu'on puisse dire que le ton soit réellement professoral, on peut tout de même avoir l'impression d'être pris de haut par ces comédiens qui formulent une critique qui, si elle pouvait paraître visionnaire dans les années 40, l'est un peu moins de nos jours. Oui, il m'importe peu de savoir si ce texte a pu être prophétique ou pas par le passé, à moins qu'on nous le présente sous un angle historique, ce qui n'est pas le cas ici. Non, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il nous apporte aujourd'hui. Or, tel qu'il me l'est présenté dans ce début de spectacle, il ne m'apporte que la vision de deux hommes qui viennent m'expliquer ce qu'ils pensent que je suis trop bête ou ignorant pour comprendre moi-même. Face à cette forme d'agression, des rires s'élèvent dans la salle. Ce sont des rires de soumission pour moi. Ah, oui, vraiment, ils ont tout à fait raison. Oh, moi aussi, je pense tout à fait cela. Oh, je ne suis pas un idiot, moi. Et c'est assez insupportable. D'autant que je me surprends parfois à entrer dans ce petit jeu. Ce qui vient juste après est presque pire. On bascule dans l'ironie en caricaturant une forme de discours dominant. Heureusement, en plus du « Oh, mais regardez comme vous êtes bêtes, gens d'aujourd'hui » qui nous semble adressé, j'entends aussi la dénonciation de ceux d'en haut qui produisent ce discours dominant. Le rire peut alors prendre une autre valeur et devenir une façon de résister à ce discours imposé. Sur ce deuxième mouvement, la critique formulée par le texte est d'ailleurs plus intéressante car beaucoup moins consensuelle, j'ai trouvé, plus polémique. En effet, l'auteur attaque ici l'idée que l'union entre les hommes doit être plus importante que la liberté. Enfin, le reste du spectacle m'a vraiment plu. Le mauvais didactisme du début laisse place au cauchemar. On entend toujours très bien le texte, malgré une langue qui est parfois assez élaborée, mais il nous est adressé d'un autre endroit qui lui apporte une force poétique et émotionnelle saisissante. L'endroit du cauchemar et de la blessure. Sur le plan visuel comme sonore, on alterne sans arrêt entre noirceur et ambiance festive. Mais cette festivité est dérisoire, grinçante, presque plus inquiétante que la noirceur qui s'assume en tant que telle. Car elle ne cherche qu'à cacher l'abîme et non pas à le combattre. Cette fausse gaieté entre en résonance avec la dénonciation que Bernanos fait de l'optimisme. Les deux personnages du début, que j'ai trouvé un peu trop sûrs d'eux, laissent place au cri des martyrs. Le procès d'intention laisse la place à la révolte désespérée contre la marche du monde qui broie les hommes. Et si on ne comprend pas tout ce qui se passe, qu'est-ce que peuvent bien représenter ces étranges figures de lapin? Pourquoi change-t-il donc 10 fois de costume dans le spectacle? Si on frôle au passage quelques clichés du théâtre contemporain, tiens donc des mecs en slip qui se couvrent de peinture rouge. L'image en elle-même est vraiment belle et s'inscrit à merveille dans l'univers du spectacle, mais le procédé même est malheureusement déjà très connoté pour le spectateur un peu connaisseur du théâtre contemporain. Et si la critique portée par le texte n'est pas toujours très subtile, on est devant la figure du pauvre gentil artiste face au grand méchant système, le spectacle n'en demeure pas moins réellement puissant. Dans un moment historique où la misère et la précarité semblent chaque jour gagner du terrain, où l'on doit chaque jour trouver de nouveaux moyens de nourrir la machine boulimique de la consommation au point qu'elle est déjà en train de nous dévorer, le spectacle de Jacques Allaire et de Jean-Pierre Barrault ouvre une brèche sur l'abîme et nous remue en nous exhortant à détourner de toute urgence le train qui nous entraîne inéluctablement vers l'impasse.
En fait, tu as quand même beaucoup aimé le spectacle. Mais tu as de grosses réserves et surtout sur le début. Et
voilà.
Alors tu as assisté à la, il y avait, il faut le dire après, une rencontre de bord de scène. Est-ce que tu as pu un peu échanger avec le metteur en scène que je crois tu connais d'ailleurs?
Oui, je connais bien Jacques Allaire pour avoir travaillé avec lui au Conservatoire de Montpellier. C'est pour ça que je me permets d'ailleurs d'être assez critique envers lui, parce que c'est un travail que j'admire et qui me passionne et qui voilà, il m'a conduit vraiment à des questionnements qui aujourd'hui me traversent encore.
Mais on a bien compris que tu avais aimé le spectacle, même si tu as des réserves.
C'est voilà.
Signalé, on a compris que tu avais aimé le spectacle.
Voilà, voilà. Et c'est un spectacle que je recommande. D'ailleurs, il repassera dans la région lyonnaise le 15 février au Théâtre de l'Atrium de Tassin la Demi-Lune. D'accord. Et c'est un spectacle qui sillonne toute la France là, cette année. Donc, il y a une date à Castelnaudary, au Creusot, à Figeac, à Montagne, à Épernay, à Avignon, et j'en passe.
Mais un spectacle qui vit, et c'est ce qu'on demande au spectacle vivant, finalement.
Donc voilà.
C'est bien. Mais c'est vrai que ce qui est frappant, et t'en parlais dans ta chronique, et Florent aussi, c'est l'actualité et l'écho qu'on peut quand même trouver ce texte qui, sur des côtés, il est daté, c'est évident. Mais on trouve un écho quand même. Et je pense que c'est ça aussi qui a saisi les gens dont tu parles.
Oui, bien sûr.
C'est qu'ils se reconnaissent là-dedans.
Oui,
donc
oui.
Après, ils disent révolutionnaire, voilà, mais... ils disent quand même qu'ils trouvent un écho dans ce texte qui pourtant, voilà, c'est ce que tu disais et ce que disait Florent, c'est un texte qui est exigeant, qui est très écrit, qui n'est pas fait pour le théâtre, qui est daté et pourtant il passe.
Oui, il passe complètement. Et on l'entend très très bien. On l'entend très très bien et pourtant on est vraiment dans un univers du chaos, du cauchemar, du rêve et avec un gros travail sonore, un gros travail sur l'image. Mais on entend malgré tout ce foisonnement sur scène, le texte est toujours très bien entendu. Et ça, c'est vraiment important. C'est une belle gageure d'avoir fait entendre ce texte et comprendre qu'il est parfaitement accessible. En plus, Jacques Allaire a un travail intéressant sur les textes qu'il travaille. C'est-à-dire qu'il a essayé de... Ça, il a dit dans la rencontre. Il a gommé, en fait, tous les aspects... qui pouvait être trop connoté pour le spectateur. C'est-à-dire que sur Georges Bernanos, par exemple, il a gommé tout ce qui se rapprochait trop de l'univers religieux, sur la question religieuse à proprement parler. Aux références patriotiques aussi, pour pas que le spectateur puisse se dire « Ah d'accord, c'est un discours patriotique, ah d'accord, c'est un discours religieux. » Et tout comme sur le spectacle qu'il avait monté sur Karl Marx, malheureusement je n'ai pas pu le voir, il avait par exemple gommé toutes les notions de lutte des classes pour pas qu'on se retrouve face à un faux discours et un faux rapport et qu'on aille plus en profondeur dans l'écriture et pas qu'on s'arrête à des murs qui sont prêts
à des étiquettes, en fait.
Voilà, à des étiquettes sur lesquelles le spectateur a déjà fixé quelque chose avant de voir le spectacle. Et c'est pour ça cette critique notamment que je fais sur la peinture, sur le corps. C'est une image qui est vraiment très belle dans le spectacle. On voit ces deux hommes avec des pinceaux de peinture rouge qui se lacèrent mutuellement. Et donc on a vraiment cette image d'écorchée et qui est très juste. Mais le problème, c'est que là, on est face à une étiquette, pour le coup. On est sur l'étiquette, théâtre contemporain.
Qui clignote en rouge aussi.
Voilà. Voilà. Et j'ai trouvé ça dommage de sa part d'avoir réussi à enlever toutes ces étiquettes qui pouvaient nous empêcher d'entrer dans le texte. Et là, de se retrouver face à cette grosse étiquette théâtre contemporain
c'est vrai,
sur cette séquence.
Mais en même temps, là... moi aussi, tu le sais, on en a déjà parlé, je ne suis pas très friand de ces clichés, j'ai pu déjà le dire dans cette émission. Mais là, je trouvais que ça perdait cette idée de cliché parce que c'était totalement justifié. Et on avait même l'impression que Bernanos l'aurait écrit dans son texte s'il avait pu. Ça découlait tellement du texte et de la pièce que c'était normal que ça vienne. Après, il aurait peut-être pu faire autrement, on est d'accord. Mais il y avait une... C'était pas gratuit. C'était
non. Et l'image est sublime.
Voilà.
L'image est vraiment sublime.
Et elle est apportée.
C'est un spectacle que j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment des points où je me dis « Ah là, c'est dommage. Là, il y a quelque chose où ça aurait pu être mieux. » Il y a quelque chose où c'est dommage. Là, ce point-là m'a dérangé. Là, ce point-là m'a dérangé. Après, voilà, j'ai pas fait la liste de tout ce que j'ai trouvé génial, de tout ce que j'ai trouvé fort, de tout ce que j'ai trouvé bouleversant dans ce spectacle, parce que là, j'étais parti pour bien plus longtemps.
On l'a compris. Et donc, on vous invite, vous avez entendu, ce spectacle continue, et notamment tout près de chez nous, en région lyonnaise. Donc, n'hésitez pas. quand vous le voyez sur des programmations ou allez vous renseigner sur Internet, à aller y assister. Ohé les gens, venez, venez, approchez car il est l'heure que nous vous racontions une histoire entièrement vraie, tirée des livres et des évangiles. Le peu que nous y ayons ajouté d'invention et de fantaisie n'est là que pour que vous saisissiez mieux de quoi il retourne. Sur scène, un ange interrompu dans sa tirade par un ivrogne qui veut lui aussi raconter une histoire entièrement vraie, celle de sa cuite mémorable, de sa grosse biture. L'ange ne finira pas sa tirade, l'ivrogne nous racontera les noces de Cana. La mère de la mariée qui s'arrache les cheveux, le père qui se frappe la tête contre un mur parce que tout un tonneau de vin s'est changé en vinaigre avant que n'arrive Jésus, Deus ex machina, pour réparer d'un miracle l'affaire et changer l'eau en vin. Oui, la pièce de Dario Fo mise en scène par la branche bâtarde et jouée dans le cadre du off du Festival Lumière le samedi 13 octobre est un mystère. Écho de ces pièces de théâtre médiéval jouées sur les parvis des églises pour instruire le peuple des Saintes Écritures. En effet, de sa douloureuse naissance sur fond de massacre des innocents à sa fin sur la croix, figurée sur scène, c'est la vie du Christ qui nous est présentée. Mais c'est un mystère bouffon, burlesque, que ce mystère bouffe, qui nous fait voir les évangiles par le petit bout de la lorgnette, pour une pièce pleine de vie et où s'enchaînent les scénettes, comme les détournements, de Marie en mère juive hilarante puis bouleversante, à l'anachronique pape Boniface, qui doit se débarrasser de son luxe et de sa pompe pour soutenir un Christ qui porte sa croix et qui le renvoie d'un coup de pied, en passant par la mort, magnifique travestie, attendant Jésus à l'auberge d'Emmaüs et tombant sur un fou qui l'a séduit. Mystère Bouffe, c'est une pièce jubilatoire, au texte magnifique, au détournement en série, qui nous parle autrement de la religion et de la foi. Alors là, j'ai essayé rapidement de vous brosser et de résumer cette pièce, c'est toujours très difficile. Je vous laisse la parole, Caroline et Florent, pour que vous nous en fassiez la critique de cette mise en scène, surtout choisie par la branche bâtarde, qui fait vraiment des choix que moi j'ai trouvé intéressants et très très bons. Sachant que donc Mystère Bouffe n'était pas du tout une pièce inconnue pour vous. Caro, toi, tu l'as déjà vu jouer, c'était à la Comédie Française, c'était il y a 2 ans et demi. Et Florent, tu l'as vu jouer l'année dernière, par la branche bâtarde déjà, mais dans une version un peu différente. Alors on commence avec toi, Florent. Déjà, est-ce qu'il y a eu des différences par rapport à l'année dernière et qu'est-ce que tu en as pensé ?
Alors là, on est sur du gros là, du très très gros. Organisé un samedi soir, en clôture du festival Lumière à l'ENS, s'il vous plaît, hein. Avec journalistes et photographes du Progrès dans la salle, la barre était placée haut. Il y avait de la pression. Il y avait même tellement de tension autour de cette pièce qu'on avait des vrais tickets à l'entrée de la salle Cantor au lieu de la liste imprimée à la dernière minute et raturée au stylo qui fait d'habitude le charme de la branche bâtarde. Autant dire que les acteurs avaient les fesses qui faisaient bravo dans les coulisses. Pour être parfaitement honnête, je craignais le bof. Il manquait des acteurs et quelques scènes avaient été coupées. Il reprenait une pièce avec moins de répétition. Je l'avais déjà vu l'an dernier et je tenais une gueule de bois à faire pâlir Gepetto de jalousie. Bref, une conjonction de facteurs qui aurait pu causer la dégradation de la note de fun de la pièce. Alors, je sais pas si l'ENS a prévu ça à la fin du festival en tablant sur le symbole, genre lumière de la science versus lumière divine, si si, tranquille, mais c'était une riche idée. Revoir la pièce était fort agréable et la voir, pour ceux qui ne l'avaient jamais vue, devait l'être aussi. Bien sûr, les scènes ne sont pas toutes égales entre elles, mais la troupe était dans l'ensemble bien équilibrée. Elle parvient à assumer les deux aspects du texte de Dario Fo, le côté mystère, pièces édifiantes jouées devant les églises au Moyen-Âge, et le burlesque de l'opéra bouffe. J'ai particulièrement apprécié la Vierge Marie, qui réussit à être à la fois drôle et émouvante, comme une relecture de Tout sur ma mère par le casting de La Vérité si je mens, avec en sus le message universel des Saintes Écritures. De plus, voir une crucifixion sur scène fait partie des petits plaisirs devenus trop rares, depuis que les empereurs romains, les genoux tremblants dans leur toge face aux menaces néo-testamentaires des évêques, ont interdit à la plèbe de jouer avec la nourriture chrétienne des lions du cirque en public. Merci donc à la branche bâtarde de m'avoir permis conjointement de savourer les plaisirs simples de nos ancêtres païens et de rattraper 10 ans d'absence en cours de catéchisme.
Donc, plutôt emballé, Florent. Et toi, Caro, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Mes a priori pour cette critique étaient peut-être injustes, puisque j'avais effectivement assisté en 2010 à l'entrée de Dario Fo au répertoire de la Comédie Française avec Mister Bouffe et Fabulage, le titre était différent, mise en scène par Muriel Mayette. Pourtant, le spectacle qui s'est joué samedi dernier en Cantor mériterait d'être évalué pour ses propres mérites. Après tout, Dario Fo lui-même a conçu la pièce comme une réinvention permanente, transformée par les improvisations de l'acteur jongleur sur scène, c'est-à-dire lui-même. Et ce que j'ai vu il y a 2 ans était donc plus une autre pièce qu'une autre interprétation. Cela étant dit, je ne peux pas m'empêcher de comparer, donc je préfère le faire explicitement. Et puis, la mise en scène de La Branche Bâtarde a bien supporté la comparaison, je crois. Muriel Mayette avait choisi de rester très proche de l'esprit originel en plaçant sur scène un seul comédien par scénette. La succession des monologues joués par des acteurs vêtus de noir se faisait sur une scène presque vide, avec à intervalles réguliers des tableaux représentant des étapes de la passion. Du coup, la résurrection de Lazare de samedi, qui réunissait sur scène une 12aine d'acteurs, par ailleurs drôles et bien tournés, m'a semblé pâle face au souvenir de Christian Eck, seul au milieu de rien, interprétant simultanément le gardien, les différents curieux et même le mur et les tombes du cimetière. La même remarque pourrait valoir dans la scène où Folding fait la cour à la mort, où cette petite dame blanche n'est donc pas présente sur scène en 2010, sauf que j'ai adoré l'interprétation de la faucheuse donnée par Alexandre, et que cette scénette où la scène avec un grand C se déroule hors scène avec un petit SC, met bien en valeur cette idée d'aborder l'évangile sous un angle différent, plus humain, ainsi que la part laissée à l'imagination. Cette dimension était déjà présente en 2010, mais la Comédie Française, ça reste grand et impressionnant, même dépouillé, et le théâtre Cantor était bien mieux adapté à une atmosphère plus intimiste. Cette expansion de l'espace scénique dans l'esprit du spectateur m'a d'ailleurs marqué dans une scène dont je n'avais gardé aucun souvenir de 2010, celle avec le pape Boniface VIII, peut-être parce que les allusions historiques me sont alors comme maintenant passées largement au-dessus de la tête, mais j'ai ri autant que le reste de la salle aux mimiques et aux mimes du pape, qui tentent de s'admirer les bonnes grâces du Christ imaginées derrière le public. C'est d'ailleurs dans les différents niveaux du rire que le spectacle trouve sa cohérence et sa progression. On rit aux blagues cochonnes, aux allusions appuyées aux évangiles, à la caricature de Marie comme mère juive, aux divagations et gesticulations de l'ivrogne. Mais d'ailleurs se dessine aussi de la satire et l'humour noir. En entrant dans la salle, la chanson « Dominique, Nick, Nick » interprétée par Sœur Sourire met de bonne humeur. Mais à mesure que le spectacle va de l'avant, quand « Alléluia » ou « Danse de joie Jérusalem » vient faire la transition avec la scénette suivante, le comique se colore peu à peu de tragique. La première scène, le massacre des innocents, où le jeu des acteurs manque encore de conviction, établit déjà ce mélange de rire et d'horreur qui va crescendo jusqu'à la crucifixion. Forcément, tous les acteurs et toutes les scènes ne se valent pas, mais les coupes par rapport à la version de la Comédie Française, qui était très longue dans mon souvenir, font ressortir le fil directeur et s'adaptent à l'attention du spectateur moyen. Comme moi.
C'est-à-dire nous, quoi.
Oui. Bon, je n'ai pas été absolument transcendée, ni vraiment surprise par les choix de mise en scène, mais je n'ai pas venu en Cantor pour cela et j'ai passé une très bonne soirée. Heureusement que j'avais adhéré à la Comédie Française en 2010, et heureusement que l'affiche de Mister Bouffe m'a interpellée dans un couloir la semaine dernière, et ce titre, ça me dit quelque chose. Je note quand même 2 mystères qui continuent à m'intriguer, le changement d'acteur pour Folding entre 2 scénettes, et la soldat-chef en tailleur rose et bottes de cougar pendant la crucifixion. Et pour le côté bouffe, une mention spéciale à la blague sur les sardines et à la déclaration d'amour au vin faite par l'ivrogne, très adaptée à ce lendemain de soirée arrosée à lumière à l'ENS.
Effectivement, parce qu'il faut dire que tu avais aussi une petite gueule de bois et que tu l'avais eu au même endroit que Florent. Voilà.
Petite.
Nos auditeurs savent tout. Projecteur maintenant sur un beau projet et je me tourne vers toi Lambert.
D'accord.
Puisque à En Scène tu t'occupes notamment, hein, t'as plein de casquettes on le sait, de l'atelier de lecture poétique qui a lieu tous les mardis de 20h à 22h en cafette à l'ENS sur le site des cartes donc. Alors rapidement, c'est quoi le principe de ces ateliers de lecture poétique ?
Alors les ateliers de lecture poétique, comme le nom l'indique, c'est des ateliers tout d'abord de lecture où on va travailler la lecture de textes. Donc l'interprétation. Donc voilà. Alors après, quels textes on choisit ? L'année dernière, j'avais commencé, l'atelier a commencé à se lancer. J'étais parti sur une thématique assez forte qui était la poésie politique et sociale. Mmh. Mais aujourd'hui, pour cette année, j'ai décidé de laisser plus de liberté, voilà, parce que ça m'avait aussi été demandé l'année dernière. Et l'idée, c'est que voilà, on se retrouve toutes les semaines, donc. Et donc moi, j'ai toujours des textes que j'ai envie de partager, mais quiconque a envie de partager un texte, de le faire circuler, de le travailler, ou juste de le faire entendre aux autres, peut l'apporter. Et du coup, voilà, les séances se construisent comme ça, au fil en aiguille. Quoi.
Alors, dans l'idée d'atelier, on l'a un peu entendu quand tu parlais là à l'instant, il y a quand même l'idée de création et d'apprentissage. Alors, c'est ça, en fait, vous vous entraînez à savoir dire le poème, l'interpréter, en vue, vous voulez faire un spectacle, ou c'est l'idée qu'il y a derrière ou pas ?
Oui, l'idée, c'est tout d'abord d'apprendre à partager des textes entre nous.
Bien sûr.
Et ensuite, oui, on compte bien faire des moments là, pendant l'année d'ouverture vers le public. On avait fait ça déjà en fin d'année dernière. On avait fait une petite soirée apéro poétique, on avait appelé ça, il me semble. Donc voilà, dans un cadre convivial où il y a eu un bel échange. On s'était mis en cercle, mais un cercle du coup agrandi pour l'occasion. Et où voilà, chacun avait travaillé 4 ou 5 textes et voilà, il y a eu vraiment des belles choses qui sont produites, un bel échange. Voilà, donc des textes drôles, des textes bouleversants. Il y en avait pour tous les goûts, pour toutes les sensibilités. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir et d'entendre comment chaque personne en fait nourrit le texte qu'il dit, quoi. Parce que là, on a vraiment un endroit de rencontre, en fait, la poésie dite. On a une rencontre entre l'auteur, l'interprète, et puis aussi, j'espère, l'auditeur. Et c'est vrai, et c'est vraiment voilà, cet endroit de rencontre là que je trouve fascinant et qui m'intéresse de travailler.
Alors, on parle de rencontres, nos auditeurs, ils te connaissent comme membre d'enscène, t'es déjà venu plusieurs fois dans nos émissions, ils te connaissent aussi comme comédien, ils ont pu te voir. Alors justement, c'est quoi la rencontre entre deux univers, le jeu du comédien et la lecture d'un poème ? Quel lien tu fais ?
Moi, je suis rentré dans la poésie par le théâtre. C'est vraiment en tant que comédien que je suis devenu ou redevenu vraiment lecteur passionné de poésie. Aujourd'hui, par exemple, j'arrive plus à lire de la poésie sans la prononcer, en fait.
D'accord.
Donc voilà. Après, là, on fait pas, c'est pas de la récitation de poèmes qu'on travaille. On travaille un autre exercice qui est assez intéressant, qui est la lecture. Et donc voilà, il y a pas mal aussi ce questionnement là qui est encore actif pour ma part sur c'est quoi la différence entre jouer un poème et juste le lire, où se situe l'endroit juste entre les deux, voilà. Et donc c'est ce genre de questionnements qui sont ouverts et auxquels chaque participant en fait m'aide à répondre, et où ensemble on cherche à soulever ces questions là et à échanger et à voir tout ça, quoi.
Alors, question plus personnelle, tu nous disais que tu aimais bien lire de la poésie et la lire à haute voix. Alors qu'est-ce que tu aimes lire à haute voix comme poésie ? Qu'est-ce qui revient souvent ? Qu'est-ce que tu peux pas te passer de lire à haute voix ?
Alors les trois auteurs, top 3 des auteurs, on a Vladimir Mayakovsky, dont je dois l'immense découverte à Jacques Allaire, dont on parlait tout à l'heure.
Quel lien magnifique.
Voilà.
Parce que c'était prévu.
C'est ça. Du coup, je suis ravi de pouvoir avoir chroniqué son spectacle, parce que c'est un monsieur à qui je dois beaucoup. Donc voilà, Mayakovsky, une verve, une puissance d'image, une force dans la langue qui est incroyable. Et mon grand regret, c'est de ne pas pouvoir maîtriser le russe et de pouvoir me contenter que de traductions françaises qui, d'une traduction à l'autre, on a des choses complètement différentes. c'est assez impressionnant. Ensuite, ben, par contre, on a deux auteurs bien français que j'affectionne tout particulièrement. On a tout d'abord ben, le bon vieux Victor Hugo. Moi, c'est vraiment ça... Sa verve politique, sa veine plus politique qui m'a vraiment touché, traversé. Voilà. Et on a aussi un drôle de poète, un drôle d'oiseau, qui est Jean Rictus, que j'ai découvert l'année dernière, et qui est un poète de la rue, un vagabond, qui a sillonné les petits troquets de Paris et qui a vécu de sa verve et qui nous parle de la rue, de la misère, de la faim et de la pauvreté avec un humour parfaitement horrible et enfin c'est à la fois complètement jubilatoire parce qu'il y a une superbe verve et un parler en plus vraiment c'est le parler de la rue quoi mais mis en vers. Donc c'est quelque chose d'assez improbable et c'est vraiment aussi un discours poignant quoi qui est vraiment chargé et oui ça triche pas quoi.
Bah merci pour cette découverte parce que je connais pas du tout et c'est vrai que là tu donnes envie non seulement d'aller à tes ateliers poétiques qui sont tous les mardis de 20h à 22h mais aussi de lire et de découvrir ce poète méconnu. Je sais pas si tu connaissais Caroline, j'ai envie de te demander parce que je te voyais réagir derrière le micro, je voyais que tu réagissais quand Lambert disait je peux plus me passer de lire à haute voix la poésie. Toi est-ce que tu lis à haute voix la poésie et quelle poésie tu affectionnes particulièrement?
Bah, comme Lambert, j'ai un petit fait pour Hugo. Je connais pas beaucoup de poèmes, mais ceux que je connais, c'est ceux d'Hugo, parce que ça se retient bien quand même. Tu sais qu'on a une œuvre de poésie à l'épreuve de l'agrégation, et ça aide. Le prof nous demande de le lire de toute façon à haute voix pour nous en imprégner, mais ça aide, je trouve, pour voir vraiment les rythmes. Enfin, c'est des évidences tout ça, mais je souscris totalement.
Et à part Hugo, sinon
Baudelaire, Rimbaud. Je sais pas.
Alors, donc voilà, Rimbaud, je pense qu'on peut les retrouver dans tes ateliers poétiques sans souci.
Oui, alors c'est Rimbaud, j'ai travaillé une fois. Baudelaire, pas encore. Parce que l'année dernière, on s'était vraiment fixé sur la démonstration. Donc là, oui, je m'ouvre à d'autres.
Je t'ouvre à Baudelaire.
Voilà, je m'ouvre à Baudelaire. Et à Rimbaud, j'ai encore du mal avec Rimbaud, on va voir ce que. Mais je suis toujours prêt à accepter les nouveaux défis.
Parce que c'est un atelier qui bouge, voilà, c'est aussi par rapport au public que tu vas avoir, tu vas adapter et tu.
Oui, voilà, bien sûr. Moi, je demande qu'à découvrir des choses et à partager. Moi, c'est vraiment un lieu de partage qui m'intéresse. Donc, comme vous l'avez entendu, si l'atelier est ouvert aux agrégatifs pour venir lire du Victor Hugo. Non, j'ai deux agrégatifs en maths notamment qui participent déjà aux ateliers.
Donc, Caroline, tu n'as plus d'excuses. Tu es agrégatif, certes pas en maths, mais tu vas devoir y aller.
J'ai cours mercredi matin.
Bref, vous l'avez compris, partage, découverte, poésie, trois mots d'ordre pour les ateliers poétiques sur le site des cartes, 20h à 22h, voire plus si affinité, c'était comme ça dans la présentation.
Voilà, mais deux heures c'est bien.
Deux heures. Et beaucoup d'autres poètes aussi, on a parlé de certains, mais voilà, allez-y et... on aura l'occasion certainement de vous reparler de ces ateliers poétiques dans Spectateur. Alors l'émission arrive à sa fin sur cette note poétique, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que cette semaine, les 18, 19 et 20 octobre précisément, vous pouvez aller voir jouer Suréna en Théâtre Cantor. C'est cette tragédie baroque de Corneille mise en scène par la compagnie de La Lumineuse que nous vous présentions la semaine dernière en recevant Mélodie Carecchio, musicienne baroque et membre de l'ensemble INSEE qui collabore au projet. Alors vous pouvez réécouter ce numéro, c'est le sixième de la série, sur notre site internet, rubrique à l'école, émission au spectateur, vous connaissez. Alors sur la page de l'émission, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, remarques et autres critiques. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine avec un beau programme, un programme de critique surtout, critique de deux spectacles très différents et dont nous vous parlions à l'instant sur Enate Corneille, joué donc en cantor et programmé par Anscène, et Macbeth, dont je vous parlais au début de l'émission, de Verdi, joué à l'Opéra de Lyon, critique donc la semaine prochaine de ces deux spectacles. En attendant, je vous laisse en compagnie de toutes les autres émissions de Transistor, et il y en a beaucoup et de très belles. Et notamment, je vous propose de réécouter, je fais ma petite pub aussi, le 31e numéro d'Anormal, qui vous permet de réécouter la soirée de présentation des saisons théâtrales de nos partenaires, l'Opéra de Lyon, les ateliers, le Théâtre des Marronniers, le Théâtre de Vénissieux et Anscène, que nous vous proposions le lundi soir en partenariat avec En Sortie. Alors je sais bien qu'il y avait salle comble dans le Théâtre Cantor, mais voilà, si vous voulez, vous pouvez tout de même réécouter cette émission qui, voilà, c'est aussi des belles rencontres et des belles découvertes et une évasion potentielle vers toute cette programmation très diverse. Vraiment une chance qu'on a donc, nous, à Lyon, de pouvoir avoir à proximité autant de choses très différentes. À la semaine prochaine, donc, et d'ici là, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au cinéma. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.